très chaud ce matin, vous avez entendu tout ce qui allait vous arriver. Et voilà, on commence tout de suite. On commence tout de suite et on va essayer de mettre en pratique tout ce qui vous a été promis. Donc, une présentation de la Bible sous forme de cours, si vous voulez, d'introduction. Je mets quand même un petit bémol, je corrige quelque chose qui a été dit. Je crois qu'il a été dit que les groupes sont le moment où on commence à poser des questions, le lieu où on pose des questions. Je modifie, non. Vous commencez à poser des questions tout de suite. Vous n'attendez pas des groupes. Moi, il y aura des moments où je m'interromperai pour vous demander des questions. Mais si à mesure que je parle, il y a une question, quelle qu'elle soit, vous n'hésitez pas à vous lever la main. Je suis prête à m'interrompre à tout moment. Je parle un peu trop vite, mais justement, il faut m'arrêter. Alors, première chose, est-ce que vous m'entendez? Oui, est-ce que ça ne cycle pas? Là aussi, s'il y a des défauts dans le micro, vous préveniez. Pour cette introduction à la vie, je vais un peu reprendre des choses qui ont été dites ce matin. Vous avez deux choses. J'ai essayé de projeter les choses essentielles à PowerPoint. Mais vous avez surtout un document jaune. Est-ce que tout le monde l'a sur sa table? Qui est bizarrement intitulé, pas bizarrement, est intitulé première partie, parce que vous aurez une seconde partie en janvier. Seconde partie en janvier, qui sera davantage centrée sur le Nouveau Testament. L'après-midi, c'est introduction à l'Ancien Testament. C'est les choses en deux temps. D'autre part, un peu plus tard, dans le mois ou dans le trimestre, on mettra sur le site internet des dossiers complémentaires à cette introduction pour que vous ayez des petits dossiers sur la présentation de la Bible que vous pourrez lire. À peu près tout ce que je vais dire ce matin et cet après-midi est présent dans le livret. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de prendre des notes en grattant à toute allure. Vous retrouverez sous une forme un peu résumée, mais quand même bien présente, tout ce que je vais raconter là-dedans. Et je commence par quelque chose qui s'appelle introduction, ouvrir la Bible, un recto verso que je vais un petit peu expliquer plus longuement maintenant. Et ensuite, deux textes agrafés dont on verra tout de suite des petites parties. En fait, il y a un mot qui n'a pas été prononcé ce matin, moi je l'attendais, je l'ai entendu, il n'est jamais venu, mais on ne voulait pas vous faire peur. C'est le mot théologie. Vous allez faire de la théologie. C'est un gros mot, mais finalement c'est un mot assez simple. Qu'est-ce que c'est que la logique, le logos, c'est un discours de la raison. Alors on a parlé d'intelligence, voilà, c'est l'art de penser les choses en raison. Théos sur Dieu. Voilà, vous allez essayer, et on va essayer de vous faire entrer dans un discours de la raison avec ses limites, bien sûr, on ne marque pas les limites, sur ce qu'on peut dire de Dieu. Et le but de ce premier temps, ce matin, c'est d'articuler cette théologie que vous allez faire avec les fondements bibliques dont on vous a déjà parlé, mais que moi je vais maintenant essayer de vous poser. Alors, on commence donc ce parcours de théologie, discours sur Dieu, par la Bible, et je voudrais m'expliquer un petit peu plus là-dessus. Réseau Saint-Sorbendi a dit ce matin, on y revient toujours, c'est le livre de repère. Si on utilisait une phrase du Concile Vatican II, une belle phrase, encore faut-il s'expliquer, c'est la Bible, c'est l'âme comme l'âme de la théologie. Comme l'âme de la théologie, donc moi je vais essayer de vous montrer que cette âme est bien vivante. Bon, c'est quand même une jolie formule, après vous explique. Il y a aussi une autre formule qu'on a un peu évoquée ce matin, je conteste un peu. Lorsque l'on lit dans la liturgie, lorsqu'on lit un texte, surtout un texte avant l'évangile, le lecteur termine en disant, c'est depuis quelques années ça s'est installé, le lecteur termine en disant « Parole du Seigneur ». Bon, c'est pas faux, mais à mon avis, c'est rapide, pas tout à fait juste. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on a entendu? Alors, pour essayer d'entrer dans cette question, au fond, comment la Bible va nous conduire à la théologie? Je voudrais, pendant un moment, ce matin, essayer de voir avec vous, mais au fond, qu'est-ce que c'est que la Bible avant de vous en donner plus de détails cet après-midi. Pour cela, je vous propose, attendez un petit peu, une introduction en trois parties. La Bible, des paroles de Jésus. Alors ça, vous n'avez pas les parties, vous avez le résumé de ce que je vais dire, là, le détail, mais pas les parties. Des paroles humaines à la découverte et à l'écoute de la parole de Dieu, c'est ça que je voulais articuler. Parole de Dieu, paroles humaines. On dit la Bible, c'est la parole de Dieu. D'accord, Dieu parle. Où est-ce qu'on entend? Où est-ce qu'on entend? Il y a des paroles humaines, on va passer peut-être là, on pourrait l'entendre. Ensuite, une deuxième partie plus courte, la distance et la tradition. La Bible, c'est quand même un livre qui a été bouclé il y a, au moins pour le Nouveau Testament, presque 2000 ans, pour l'Ancien, il y a un peu plus. Donc, à une vraie distance de nous, dans un autre peuple, une autre civilisation, d'autres langues. Évaluer un peu cette distance et comment c'est arrivé jusqu'à nous. Et enfin, la nécessité de la théologie que vous allez faire, ce discours de la raison, qui est au fond, un peu à partir de la Bible, ben, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? C'est-à-dire, voilà, on a lu un texte, c'est-à-dire, on va l'actualiser dans notre monde, dans nos vies. C'est le travail des cours, c'est évidemment encore plus le travail des groupes. Ça vous va ça? Trois temps? Ça marche? Alors, premier temps, c'est le plus important, des paroles humaines à la découverte et à l'écoute de la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est que ce livre, la Bible? C'est d'abord, je crois, l'histoire d'un peuple. Ou plus exactement, un peuple qui raconte son histoire à travers de nombreux écrits, de nombreux récits, de nombreux poèmes, de nombreux romans, des genres littéraires différents. Le peuple, de multiples façons, raconte son histoire sous des formes variées. On pourrait dire tout de suite, enfin, pourquoi ce peuple-là et pourquoi cette histoire-là? Pourquoi on n'enseigne pas, après tout, l'histoire des peuples celtiques dont je descends peut-être, si je suis breton du bout de la Bretagne, ou des peuples... je ne sais pas, germanique, pourquoi ce peuple-là et cette histoire-là? Ça nous intéresse, cette histoire-là, parce que la foi chrétienne sur laquelle nous sommes venus enquêter, que vous professez ou non, de toute façon, le site, eh bien, une enquête sur la foi chrétienne, eh bien, la foi chrétienne, elle nous vient de ce peuple. Elle nous vient de ce peuple, le peuple juif, et celui que les chrétiens considèrent comme leur Seigneur, Jésus le Christ, au centre, on l'a dit ce matin, de leur foi, il fait partie de ce peuple. Et il s'est inscrit dans cette histoire, c'est la sienne. À travers lui, elle devient un peu la nôtre. Cette histoire, donc, du peuple juif, à travers la Bible, racontée jusqu'à Jésus compris, c'est donc, en fait, constitutif de la foi chrétienne et aussi, même si aujourd'hui on en discute un peu, mais Olivier serait là pour vous dire que oui, c'est constitutif de la culture judéo-chrétienne qui marque encore profondément notre monde, au moins occidental. Moi, on peut toujours me dire le contraire, il suffit que je me balade en France pour voir le nombre d'églises, de clochers, de peintures, de sculptures, d'abbayes. Si la foi chrétienne, elle est là. Bon. En tout cas, la tradition, la culture judéo-chrétienne, elle est. En plus, donc ce peuple, nous en descendons. En plus, quand un peuple raconte son histoire, eh bien, il aborde toutes les questions profondément humaines qui sont évidemment aussi les nôtres. Leurs questions, c'est les nôtres. Alors, on l'a dit ce matin, évidemment, vous n'allez pas avoir dans la Bible des questions de bioéthique. Mais vous allez avoir des questions sur la migration. Ça oui, effectivement, il y en a beaucoup. Vous n'allez pas avoir des questions sur la bourse et sur la financiarisation de l'économie. Il n'empêche que vous allez quand même avoir des grandes questions qui sont les vôtres, ou les miennes. D'où nous venons? Quel est le sens de notre vie? Où est-ce que nous allons? Quelle est notre espérance? Sur quoi assurer et régler nos vies, en fait? On l'a dit ce matin, qu'allons-nous faire et que devons-nous faire? Et puis, où, comment, on a dit aussi, entendre une parole de Dieu, et la question a été posée, qu'est-ce que ça signifie, Dieu parle? Alors, reprenons cette idée. La Bible, c'est l'histoire d'un peuple. En fait, c'est une histoire racontée, ou plus exactement, relue, méditée et explicitée. On prend souvent l'image de l'album de famille. Vous prenez l'album de vos grands-parents, il y avait déjà des photos, vous êtes jeunes, donc vos grands-parents ont déjà des photos, et avec d'autres de votre famille, vous feuilletez l'album en commentant, en expliquant, en essayant de retrouver des personnages, ce que vous avez connu, ce que vous n'avez pas connu, tiens, ça s'est passé comme ça, la traversée de l'histoire, les guerres, le bonheur, les malheurs. Et chaque fois, vous pouvez, au fond, y trouver quelque chose qui conduit à votre propre histoire et qui l'éclaire. D'une certaine façon, la Bible, c'est ça. C'est des gens qui, à un moment donné, on verra ça cet après-midi, peut-être à plusieurs reprises, ont repris les vieux récits, les vieilles traditions. Alors, il n'y avait pas de photos à l'époque, mais enfin, les vieux récits, les vieilles traditions, ce qu'on disait à travers ce qui leur vient de leurs ancêtres, l'ont médité, l'ont relu, ont tiré le sens et ont essayé avec ça de comprendre ce qu'ils vivaient et d'éclairer leur présent. Voilà. La Bible, ça fonctionne comme ça. On reprend des choses du passé, on réécrit, on commente, on actualise. Avec, pour moi, un point essentiel. En se penchant sur cet album du passé, en se penchant sur ce qu'ils savent, ce qu'ils ont recueilli de leur histoire, les auteurs de la Bible, les gens de la Bible, découvrent quelqu'un. Ils découvrent qu'il y a un Dieu qui est déjà là, qui les précède, qui les attend, qui les appelle et qui leur propose son alliance. Un Dieu qui s'engage par une promesse auprès d'eux, avec eux, et qui est toujours prêt à renouveler cet engagement dans une espèce d'accompagnement et de présence indéfectible aux côtés de son peuple, mais bien avant, aux côtés de l'humanité. Un Dieu qui était avant nous et dont on découvre qu'en fait, il nous attend depuis toujours et il nous attend. Pour moi, je résumerai, pour moi, enfin, quelque chose qui résume cette façon d'être de la Bible et aussi quelque chose de la découverte de Dieu dans nos vies, c'est l'histoire de Jacob, dont vous avez peut-être entendu parler, ou dont vous n'avez pas entendu parler, qui est un très très ancien patriarche. Il fait partie de la légende des pères. On peut dire l'histoire de Jacob qui fuit, parce qu'il a volé le droit d'aînesse à son frère Esaü, donc il doit fuir parce que l'autre le menace, qui arrive dans un sanctuaire où il s'endort, la tête sur une pierre, il fait un rêve. Dans ce rêve, le ciel est ouvert, il y a une échelle qui joint le ciel à la terre et les anges, les intermédiaires finalement entre Dieu et l'humanité qui montent et qui descendent. Donc, un rêve. Quand il se réveille, Jacob a cette parole qui est étonnante. Le Seigneur était là et moi, je ne le savais pas. Et bien, la Bible, c'est ça. Et d'une certaine façon, nos vies, quand on les relit, c'est ça. Le Seigneur était là et moi, je ne le savais pas. Il y a même un psaume qui dit la même chose et dit « Et moi, comme une bête, comme un abruti, je ne m'en étais pas rendu compte. » On redécouvre que le Seigneur était là. Alors c'est donc une découverte de Dieu. Un Dieu qui est d'abord le Dieu d'une tribu, un petit groupe, d'un clan. Ensuite, le Dieu d'un peuple, d'un Dieu qui est intervenu pour nous sauver. Nous qui, des gens qui étaient captifs, prisonniers, il est intervenu et c'est lui qui nous a arrachés à la captivité, à la servitude. C'est l'histoire de l'Exode qui reste comme l'événement de mémoire fondateur. Un jour, Dieu nous a sauvés et nous a arrachés à l'esclavage et à la mort. Un Dieu dont on va aussi découvrir petit à petit qu'il est l'unique que tous les autres dieux, parce qu'on est dans un monde qui est peuplé de divinités, tous les autres dieux ne sont rien, parce que ce sont du vide ou des créatures de ce Dieu unique, et qu'il est le Dieu créateur, celui qui, au fond, est la source et au maintien permanent de l'univers tel qu'il est. C'est quand même le judaïsme qui nous a donné, à nous, chrétiens et à l'islam, le monothéisme, l'idée, la découverte du Dieu unique, on ne peut pas l'oublier. Donc, découverte d'un Dieu unique qui nous attend et qui nous appelle. La découverte, dans la Bible, elle se fait, mais elle ne se fait pas de façon progressive. Elle ne se fait pas de façon progressive. Elle se fait par flashs successifs qui ne vont pas du début de la Bible jusqu'à la fin pour enfin découvrir le Dieu unique, créateur et le Dieu de Jésus-Christ. Même si, en gros, ça fonctionne comme ça, quand on lit la Bible dans le détail, on s'aperçoit que non. Il y a eu des époques lumineuses et puis des époques de régression. Et les époques de régression, ce n'est pas nécessairement les époques les plus anciennes. De même pour nous et dans nos vies et dans notre histoire, il y a des époques de découverte lumineuse de Dieu et puis des époques de régression. On n'y comprend plus rien, on ne sait même pas ce que ça veut dire que Dieu existe. Il y a des moments différents. Et la force de la Bible, c'est d'avoir accueilli au cours de l'histoire de ce peuple tous ces moments. Et d'en avoir fait une espèce de bouquet. Alors, je m'explique avec des exemples. Vous avez dans votre dossier, après la première page, que je suis en train de détailler, une page de texte. Il y a deux pages de texte. Une page de texte un peu serrée, un peu dense. Je ne crois pas que je vais la lire. De cette façon dont la Bible fait un bouquet avec différentes expériences de Dieu, différentes conceptions de Dieu. Le premier exemple, il est tiré du premier livre de la Bible. Si vous ouvrez la Bible, vous ouvrez le livre de la Genèse. Et là, vous lisez le premier récit de la création. Probablement, vous connaissez Dieu par la parole, crée, il fait émerger des eaux et du chaos dans lequel le monde est plongé, fait émerger la terre et ensuite il la peuple d'abord de végétation, puis d'animaux, et enfin il y a ce récit en 7 jours de la création qui est un grand récit de célébration qui célèbre la beauté de la création et l'action de Dieu dans cette création. Et puis le récit se termine, et donc on est au chapitre 2 de la Genèse, puisque précisément la célébration de la création, on se fait le chapitre 1. Et je vous ai mis le tout début du chapitre 2, parce que vous réserve une surprise. On conclut donc, le ciel et la terre et tous leurs éléments furent achevés. Dieu acheva au 7e jour l'œuvre qu'il avait faite, il arrêta au 7e jour toute l'œuvre qu'il faisait. Dieu bénit le 7e jour, le consacra, alors qu'il avait arrêté toute l'œuvre que lui-même avait créée par son action. Telle est la naissance du ciel et de la terre, lors de leur création. Le jour où le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore sur la terre aucun arbuste des champs, aucune herbe des champs n'avait germé, il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Le Seigneur modela l'homme avec de la poussière sur le sol, etc., etc. Vous voyez bien qu'on a terminé de vous raconter la création, il y a l'homme et la femme, on les a dit, Dieu leur a donné de la nourriture, etc. Et tout d'un coup, tout recommence. Tout recommence comme si on repartait à zéro. Le jour où le Seigneur fait le ciel et la terre, il n'y avait rien. On vient de dire qu'il y avait tout maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Après le premier récit de la création, cette grande célébration, vous allez avoir droit à un récit numéro 2. Récit numéro 2, une autre façon de dire la création. Tout à fait différente. Sur le fond, les deux récits sont d'accord. C'est Dieu qui crée. Dieu crée pour la bénédiction, Dieu crée pour même placer l'homme en face de lui comme partenaire qui l'honore et qui l'aime. Mais dans le détail, les deux récits sont entièrement différents. Il n'y a rien qui coïncide. On a donc juxtaposé, et c'est volontaire, deux façons de dire le Dieu créateur. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas du tout dans une culture scientifique ou historique. Mais qu'on est au fond dans une espèce d'enquête où on retient les façons les plus correspondantes à ce qu'on croit, cette unicité de Dieu qui crée tout, on retient des récits différents et on les juxtapose. On les juxtapose, vous avez bien vu, il y a une petite phrase de liaison. Telle est la naissance du ciel et de la terre lors de la création, dont on ne sait pas si elle vaut pour le premier récit ou pour le second. On fait une liaison et on juxtapose. Et comme ça, le lecteur verra qu'en fait, l'acte créateur, la création de Dieu, c'est encore beaucoup plus que tout ce qu'on a pu vous raconter, messieurs-dames. Mais c'est beaucoup plus que tout ça. On vous donne deux récits, on pourrait en faire, et vous pourriez vous faire un récit au fond du Dieu créateur chacun. Qu'est-ce que c'est que le Dieu créateur dans vos vies? On fait un bouquet avec tout ça et on écrit la Bible. Ça va? Vous voyez là ce que je veux montrer? Ou non? Si, ça va? Je ne vous scandalise pas. Il faut être réactif, il ne faut pas dormir. Bon. J'ai donné un autre exemple pour que vous ayez des références, je ne vais pas vous dire les détails du texte, mais je vous le raconte. Dans le premier livre des Rois, il y a un récit d'un très ancien prophète, on est au 9e siècle, peut-être même 10e, 9e siècle avant Jésus-Christ. Un prophète qui n'a rien écrit, mais on est encore dans des récits qui ont quelque chose d'assez ancien, d'assez flou, d'assez légendaire, mais on les a reçus de la tradition et on va les donner ces récits. Ces récits concernent le prophète Élie. Le prophète Élie est donc un homme de Dieu, du Dieu d'Israël, du Dieu en train de devenir le Dieu unique, et qui dénonce la façon dont vit le roi d'Israël, qui a épousé une païenne, une Jézabel, une femme qui est une partisane, une fidèle des dieux de la nature, notamment des dieux Baal qui sont au fond, des dieux de la nature, de la fécondité, de la nature qui pousse et qui grandit, personnifiée. Et évidemment, cette femme essaie d'instaurer dans le royaume le culte des Baal, que le prophète Élie considère évidemment comme des idoles. Ce sont des dieux de la nature, or la nature est une créature de Dieu, c'est l'unique qui l'a créée. Donc Élie dénonce les agissements de Jézabel, et évidemment, Jézabel n'est pas content, poursuit Élie, et met en concurrence avec Élie les prêtres de ses propres divinités des Baal. Or, il y a une grande sécheresse dans le pays. On est dans des situations agricoles. Tout dépend de la pluie et du temps. D'où les dieux de la nature qu'on invoque, etc. Une grande sécheresse, et donc on met en concurrence les prêtres de Baal et Élie. On va faire un concours. Chacun de son côté construit un autel pour son dieu, eux pour leur dieu de la nature, Élie pour son dieu, et chacun va invoquer son dieu ou ses dieux. Alors, il y a les prêtres de Baal qui invoquent le nom de Baal en criant depuis le matin jusqu'à midi, Baal, réponds-nous. Il crie de plus en plus fort, il se taille à la coupe de lance jusqu'à risseler de sang, et évidemment, rien ne se passe. Rien ne se passe. Alors, Élie s'adresse à son Dieu, réponds-moi, Seigneur, que ce peuple sache que c'est toi qui es Dieu, toi qui ramènes vers toi le cœur du peuple. Et à ce moment-là, le feu du ciel tombe sur l'autel d'Élie et un petit nuage à l'horizon. Voilà, la pluie arrive. Donc c'est Élie qui a gagné, le dieu d'Élie qui est le plus fort. Vous allez me dire, c'est de bonne guerre. Mais ce qui se passe après est un peu troublant. À cette vue, tout le peuple se jette face contre terre et crie, c'est le Seigneur, au nom du dieu d'Élie qui est Dieu. Élie leur dit, saisissez les prophètes de Baal, que pas un n'échappe. On les saisit, Élie les fit descendre dans le ravin du Kishon et il les égorge. Sympa, l'homme de Dieu, moi je veux bien. Voilà, c'est quand même une drôle de conception de la victoire de Dieu, de la suprématie du Dieu unique sur les autres dieux. Si on doit égorger tous ceux qui ne croient pas, ça va mal finir. Or, ce qui m'intéresse, moi, c'est que je tourne la page, je continue la lecture, je tourne la page, pas loin, deux paragraphes après. Et j'ai le même Élie, évidemment poursuivi par la vindicte de Jézabel, qui est furieuse quand on a tué ses prêtres. J'ai le même Élie qui fuit dans le désert, qui n'en veut plus, qui s'endort, qui veut mourir. L'ange du Seigneur vient le réconforter, lui donner du pain et de l'eau. Allez, vas-y, Élie. Et Élie finit par se cacher, par s'abriter dans une grotte dans le désert. Et là, le Seigneur lui dit, saute, tiens-toi sur la montagne, devant le Seigneur. Voilà que le Seigneur va passer. À ce moment-là, il y a toute une série de phénomènes météorologiques violents. Il y a le vent qui passe, un vent violent, mais le Seigneur n'était pas dans le vent. Il y a un tremblement de terre, mais le Seigneur n'est pas dans le tremblement de terre. Il y a un grand feu, mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut une voix de fin silence, et c'est là qu'était le Seigneur. Voilà une autre vision de ce Dieu d'Élie Il y a celui qui fait égorger tous ceux qui ne sont pas d'accord, et il y a celui qui se manifeste dans la douceur et le silence de la solitude du prophète dans le désert. Vous allez me dire lequel est le vrai. On a le cœur qui penche vers le second, mais peu importe. Peu importe, ce qui est intéressant, c'est quand même que les auteurs de la Bible ont gardé les deux. Ils n'ont pas barré d'un coup de crayon comme ça le récit où Élie égorge les prophètes de Baal. Ils ont voulu, au fond, comme dans la création, garder plusieurs conceptions de Dieu dans des expériences différentes, dans des histoires différentes, dans des moments différents de la vie et de l'histoire. Et on ne peut pas dire comme ça, le premier récit est archaïque, le second est récent. Pas du tout, il y a des gens qui travaillent là-dessus, c'est peut-être l'inverse. Non, on a des expériences de Dieu, des conceptions de Dieu qui, en fait, sont multiples. Et au fond, Dieu ne se découvre que dans la jointure, la juxtaposition, le dialogue entre ces différentes conceptions de Dieu. C'est ce que vous allez faire dans les groupes, au fond. Vous arrivez chacun avec votre conception de Dieu, ce qui vous choque et ce qui vous emballe, et vous allez confronter ça. Et voir qu'au fond, ben, chacun a son chemin, mais c'est bien le même Dieu qui travaille au cœur de tous, même si on ne peut jamais le dire concrètement. Et c'est pour ça que la Bible nous offre cette étonnante collection d'expériences humaines, religieuses, existentielles. C'est que les auteurs de la Bible ont bien conscience que de Dieu, on ne peut jamais tout dire. Celui qui sait tout, quelque part, il manque quelque chose. Il y a une phrase que je déforme, elle est assez célèbre de saint Augustin, qui disait, si, je ne sais plus exactement le détail, si tu as compris, alors ce n'est pas Dieu. Voilà. Si tu l'as compris, alors ce n'est pas Dieu. Si vous n'avez plus compris, quelque part, vous êtes à côté de la plaque. Donc, n'hésitez pas à ne rien comprendre. N'ayez pas peur. C'est là qu'on avance. C'est là qu'on peut être. Enfin voilà, chacun a son expérience de Dieu qui répond à une expérience, à une quête, à un désir. Malgré tout, ce Dieu de la Bible s'impose. Il y a une multiplicité de noms, au moins un, au moins deux, le Seigneur, et puis le mot qu'on ne prononce pas en hébreu. Et puis il y a Dieu, et puis il y a aussi le Tout-Puissant, et puis il y a le Très-Haut. Toute une multiplicité de noms. Mais malgré tout, il a quand même une caractéristique. C'est que même si par période, et chez certains auteurs, on voit que Dieu est simplement dans une voie de fin silence et que parfois il se tait complètement. Job met 36 chapitres à arriver à faire parler Dieu. Ça grippe à Dieu jusqu'à ce qu'il réponde et jusqu'à ce qu'il parle, et il va falloir du temps. Et on voit dans le prophète Isaïe que Dieu est aussi un Dieu qui se cache par période et nous en faisons l'expérience. Malgré tout, le Dieu de la Bible bien la caractéristique qu'on vous a annoncé tout de suite ce matin, c'est un Dieu qui parle par les prophètes, qui parle dans l'histoire, qui parle au cœur de l'homme, qui parle dans des lois, qui parle dans les traditions de sagesse. Et il nous reste à nous dire, mais comment entendre cette parole? Eh bien, les hommes de la Bible racontent, témoignent, et quand je réfléchis à certaines traditions, on ira un petit texte qui montre une façon d'entendre cette parole de Dieu. En tout cas, c'est bien un Dieu qui est toujours lié à l'histoire humaine, qui s'approche. Il y a de très belles images. Dieu qui dirait les deux lions. Dieu s'est approché de nous à travers l'histoire d'Israël, à travers les prophètes, jusqu'à quand Jésus-Christ se faire l'un de nous. Il s'apprivoise, dirait il s'apprivoise à l'homme pour que l'homme s'apprivoise à Dieu. C'est bien celui-là, le Dieu de la Bible. Or, il se révèle, entre autres, peut-être surtout, entre autres, dans cette grande ensemble de textes qui forment la Bible, cette grande bibliothèque. Je crois que la Bible, on peut la concevoir comme la bibliothèque d'un peuple qui découvre que Dieu est là, qui l'attend, et qui se met, au fond, en quête d'une meilleure connaissance de ce Dieu. C'est la bibliothèque d'hommes qui ont essayer de se rendre attentif à la révélation de Dieu, attentif à la parole de Dieu, cette fois-ci avec un grand P. Diversité des livres comme dans votre bibliothèque, la Bible ne prétend jamais à une unification ou à une vérité présentée en quelques lignes que tout le monde devrait apprendre par cœur. Autrement dit, la Bible n'est pas un catéchisme, et j'espère que les catéchismes ne se réduisent pas jamais à quelques lignes à apprendre par cœur. Et ça, c'est vrai de toute la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, dont on parlera en janvier, fonctionnent, malgré ce qu'on croit, malgré les avances, exactement de la même façon. Le Nouveau Testament ne vous offre pas une vie de Jésus. Il y a des gens qui ont une vie de Jésus. Mais le Nouveau Testament, il vous offre quatre témoignages, quatre évangiles. Et si vous les regardez de près, bien sûr, ça commence à l'essentiel, mais ils sont quand même très différents. Il y a chacun une présentation, une façon de dire qui est Jésus, qui est différente. Et puis dans le Nouveau Testament, il y a aussi les actes des apôtres, il y a aussi les lettres de Paul, il y a aussi les lettres de Pierre, il y a aussi la lettre aux Hébreux, il y a aussi l'Apocalypse. Il y a différentes façons, avec différents genres littéraires, de répondre à la question de Dieu qui est devenue la question de Jésus. Et vous, qui dites-vous que je suis? Eh bien, il y a une multiplicité de façons d'y répondre, et ça nous a formé notre Nouveau Testament, de même que les auteurs bibliques, de même les chrétiens, les églises, l'Église ensuite, peut-être un peu plus unifiée, ont décidé de ne pas unifier, de garder ce corpus de textes qui nous montre qu'au fond, on a chacun à répondre à la question. Et vous, qui dites-vous que je suis? Et chacun un peu différemment, et que de toute façon, on n'aura jamais épuisé. On n'aura jamais épuisé Jésus le Christ. C'est toujours encore différent de ce qu'on croit. Voilà. Alors, la Bible, c'est donc cette bibliothèque qui est devenue pour nous Ancien et Nouveau Testament. On reparlera plus longuement de ça cet après-midi. Une bibliothèque avec des livres divers, avec, comme dans vos bibliothèques, des genres littéraires différents. Vous avez peut-être le Code civil dans votre bibliothèque, mais vous avez aussi des romans. Vous avez peut-être un livre de médecine ou de sciences physiques, de sciences humaines, et puis vous avez des pièces de théâtre, et puis vous avez de la poésie. Mais c'est pareil dans la Bible. On a des genres littéraires différents. Évidemment, il ne faut pas s'y tromper. On ne pose pas la même question à un poème et à un livre scientifique, ou à un livre d'histoire, ou à un code de loi. Donc attention à la façon dont on lit la Bible, attention chaque fois quel type d'écrit y a-t-il. Ce qu'on constate aussi, c'est que, et je vais arriver à ma deuxième partie, on a beaucoup vécu depuis, et que donc les paroles qu'on trouve dans la Bible sont évidemment falsifiables, on pourrait dire, si on leur pose ou si on leur oppose l'avancée, par exemple, des sciences modernes. Si vous posez l'avancée de la connaissance sur l'évolution et la façon dont l'être humain est apparu, il n'aurait pas la même chose que dans Genèse 1 et Genèse 2. Et puis il y a des questions, on disait tout à l'heure, que vous ne pouvez pas poser à la Bible. Mais évidemment, c'est poser à ces livres des questions auxquelles ils sont incapables de répondre et qui d'ailleurs ne les intéressent pas. Eux, ils posent des questions fondamentales, des questions en lien avec les connaissances de leur époque. On peut à peu près voir, à partir du premier récit de création, quelle était la vision du cosmos, la cosmologie des auteurs. Il y avait la Terre qui flottait sur le ronde, qui flotte sur de l'eau, avec l'océan dessous. Le ciel qui est une coupole avec des trous pour faire Pluton, au-dessus de l'eau. Donc on est pris entre deux eaux. Et le problème, c'est que si le ciel lâche, c'est le déluge. On est inondé. Et donc Dieu est celui qui a mis la limite et qui, comme disent les psaumes aussi, fixe leur limite aux eaux pour qu'elles ne sortent pas de la limite. Après, vous allez dire, mais on a effectivement des tsunamis, des eaux qui sortent de leur limite. Et là, on rencontre aussi les mystères de cette création avec la présence du mal dont on l'a dit tout à l'heure, on ne sait pas l'origine et sur laquelle la Bible ne cesse de s'interroger aussi. Voilà. Donc, mon idée, c'est de dire, on n'est pas là pour poser nos questions à la Bible. On a dit, la Bible sera au fondement de chacun de nos cours. Non pas pour lui poser nos questions, mais pour nous laisser questionner par elle. La Bible, c'est une façon, en commençant un cours ou en cours de route, on a fait un cours sur l'Église, sur la morale aussi, je crois, c'est une façon non pas de donner des réponses à nos questions, parce qu'elles ne nous répondent pas, mais une façon de nous mettre en question, de nous laisser interroger pour avancer dans notre propre recherche. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut renverser les points de vue. On ne va pas vers la Bible pour l'interroger sur nos problèmes, on va vers la Bible pour qu'elle nous interroge sur la façon dont nous nous situons par rapport à l'autre. Est-ce que ça va jusque-là? Oui? Est-ce que vous êtes moyen? Dites-le. Est-ce qu'il y a des questions? Éloignez un peu le micro. À part ça, est-ce qu'il y a des questions? Oui, je vous écoute. Alors, j'ai essayé de le dire probablement trop vite, parce que Jésus de Nazareth, que nous considérons comme le Christ et le Seigneur, alors je rapproche, hein, fait partie de ce peuple, et que c'est son histoire, c'est sa tradition, c'est son arrière-plan, que tous ceux qui nous ont transmis la foi en Jésus mort et ressuscité, l'ont transmis sur l'arrière-plan et en s'appuyant, pour la dire, sur cette tradition. Et donc, d'une certaine façon, parce que nous ne pouvons pas atteindre, comprendre quelque chose à ce qui s'est transmis au commencement des siècles, des premiers siècles de notre ère, qui s'inscrit dans le Nouveau Testament, et puis après dans la tradition des pères d'Église, etc., si nous n'avons pas conscience et connaissance de cet arrière-plan, qu'est ce que nous appelons l'Ancien Testament, mais qui est au fond l'histoire du monde juif, l'histoire, la tradition, la foi du monde juif, parce que Jésus s'inscrit complètement dans cette histoire et que ses disciples sont d'abord tous des juifs. Paul de Tarse, qui est allé annoncer la bonne nouvelle de Jésus aux païens, le premier, et qu'ils ont tous dit la bonne nouvelle de Jésus-Christ à l'aide des promesses, des attentes, du langage, qui étaient présentes dans leur tradition, qui est l'histoire du peuple juif, et donc dans leurs écritures, qui est ce que nous appelons l'Ancien Testament. C'est-à-dire, l'Ancien Testament, c'est vraiment le matériau, mais pas seulement le matériau littéraire, c'est aussi le matériau littéraire, mais le matériau d'attente, de promesses, d'expérience, de connaissance de Dieu et de ce Dieu qui s'approche de l'homme, sur lequel, à partir duquel le Nouveau Testament va avancer. Ça va? Oui.
Alors peut-être que c'est pas le moment de poser la question.
Non, mais la question est toujours bonne.
Voilà. Pour des gens qui sont pas dans cette mouvance ou dans cette obédience de foi chrétienne, en quoi ça peut les concerner?
Alors, en quoi ça peut les concerner? C'est-à-dire, vous posez un peu le problème de l'annonce, là.
Oui,
comment j'annonce? Non, mais c'est une bonne question. Comment on lui annonce et je m'annonce? Est-ce qu'il faut commencer par raconter l'Ancien Testament ou par annoncer Jésus-Christ? C'est une vraie question, mais c'est toujours posé. Je crois. On peut discuter. Je crois que les chrétiens annoncent d'abord Jésus-Christ et le pardon de Dieu et la réconciliation opérée en Jésus-Christ de Dieu avec l'humanité, ce Dieu qui s'est approché de l'homme pour s'apprivoiser à l'humanité, devenir homme, et que l'homme, au fond, aille vers lui et devienne Dieu, si je prends le raccourci des pères d'Église, pour transformer l'être humain, c'est votre cours, après Jésus-Christ, l'être humain transformé en voie de conformation au Christ. Mais une fois que vous avez dit ça, vous ne pouvez plus dire grand-chose de Jésus-Christ si vous n'allez pas faire le tableau, annoncer d'où il vient, qu'est-ce qu'il porte comme espérance, comme promesse, comme annonce, sur quoi il s'inscrit. Ou alors, vous aurez un Jésus-Christ qui est un Dieu parachuté sur la terre. Et ça, les chrétiens l'ont toujours refusé. La foi chrétienne l'a toujours refusé. Vous voyez ce que je veux dire? Le danger, c'est de le parachuter et d'en faire un être céleste descendu faire un petit tour et remonter. Ça s'appelle la gnose et ce n'est pas la foi chrétienne. La foi chrétienne, c'est que Jésus est un homme. L'incarnation, au sens fort, c'est un homme qui fait partie d'un peuple et qui, comme vous, a sa mémoire, ses traditions et porte avant lui toutes les promesses et toutes les attentes d'Israël. Donc à un moment donné, vous êtes obligé de récupérer tout ça. Ah, il faut que je reprenne des questions quand vous allez poser des questions. Posez des questions.
le dernier point que vous avez développé concernant est-ce qu'on interroge la Bible ou est-ce qu'on se laisse interroger, donc vous avez clairement dit que en fait c'est fait plutôt pour se laisser interroger plutôt que d'avoir des réponses. Je suis un peu troublé par ça, parce que moi je pense qu'on peut faire les deux. Parce que finalement, si Jésus est la vérité et le Christ est bien parti, s'il est la vérité et toute la vérité, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas aussi chercher à y trouver des réponses à nos questions.
Alors, je reprends votre question, parce qu'il paraît que je la reprenne d'abord pour tout le monde et ensuite pour l'enregistrement. Vous inquiétez de ce que j'ai dit, nous n'avons pas tant à poser nos questions à la Bible qu'à nous laisser interroger par elle en disant, mais enfin, la révélation de Dieu en Jésus-Christ, c'est qu'il est la vérité, toute la vérité. Et moi, j'ai bien le droit de poser des questions et d'obtenir quelques réponses si j'ai en face de moi la vérité. Ça ? Alors, je suis d'accord avec vous, j'ai probablement caricaturé. Bien sûr, on peut poser nos questions, mais je dirais qu'il faut faire attention au type de questions qu'on pose à Dieu. Si on lui pose la question de la vérité, si on a tendance à poser des questions essentiellement liées à notre ancrage humain et assez concrètes. Et c'est sûr que là-dessus, la Bible ne peut pas répondre, elle ne peut pas vous répondre sur la théorie de l'évolution, vous voyez ce que je veux dire. Bon, c'est vrai quand même que la Bible étant pour nous Dieu qui se révèle et qui se révèle dans sa vérité, pouvons nous tourner vers elle pour être à l'écoute de cette vérité. Mais je crois quand même que la réponse que vous allez obtenir, ça va être une réponse interrogeante. C'est-à-dire que vous n'allez pas recevoir de la Bible quand vous êtes en quête de la vérité sur le sens de votre vie, sur le Dieu qui vient vers vous, sur qui est Jésus-Christ, ce que nous avons et même que faire. La réponse que vous allez recevoir, si je crois que vous l'écoutez bien, la Bible, ça n'est jamais une réponse fermée, close, immédiate et définitive. Les réponses de la Bible sont toujours des réponses qui vont vous renvoyer à votre propre liberté, l'ayant éclairée, l'ayant étayée, l'ayant fait faire un chemin. Et c'est là où je dis, la Bible est quand même là aussi, et peut-être d'abord pour nous déplacer. Elle nous répond en nous faisant voir les choses autrement. Ça marche, ça ? Bon, alors on est d'accord. Ça va ? Bon, j'ai une idée. Je peux continuer en revenant en arrière, la distance et la tradition. Ça va être plus court. Il est évident que ce travail d'entrer dans la Bible, d'écouter, de se laisser déplacer, de voir comment nos questions consonnent ou ne consonnent pas, c'est un travail qui ne peut pas se faire tout seul. Et parce que d'abord, la Bible nous a été transmise. Elle ne nous descend pas directement du ciel sur notre table et elle ne descend pas non plus directement du ciel sur les prophètes. La Bible, c'est quand même cet énorme travail, cette énorme chaîne de transmission à travers les siècles, d'abord avant qu'elle soit constituée, puisque je vous ai dit que c'était des gens à l'écoute et à la recherche des traditions de leur peuple. Donc, ils ont enquêté, recueilli, repris des écrits qui dataient de 200, 300, 400 ans avant eux, des traditions bien plus anciennes, ils ont repris tout ça. Donc, il y a ce grand travail de transmission, et ensuite, une fois qu'elle a été constituée, on pourrait même dire canonisée, puisque à partir du 2e, 3e siècle après Jésus-Christ, le texte de la Bible hébraïque est à peu près clos, et pour les chrétiens, le texte du Nouveau Testament, et même de ce qu'ils considèrent comme leur Ancien Testament, est à peu près clos. Les textes sont à peu près clos, les listes sont closes. Et ceci ne nous tombe pas non plus sur la tête comme ça, ça nous a été transmis. Si vous êtes né dans une famille chrétienne, il y avait la Bible sur les étagères, mais l'auriez-vous ouverte si on ne vous en avait pas parlé? Vous voyez ce que je veux dire? La Bible, c'est quand même d'abord l'énorme transmission qui s'en est faite à travers les siècles, d'un côté par le peuple juif, de l'autre par les chrétiens rassemblés dans leurs églises. Il y a eu tout ce... Comment dire? On ne pourrait pas lire la Bible s'il n'y avait pas le truchement de ce qu'on peut appeler la tradition. Ces gens qui, de génération en génération, ont transmis à leurs enfants ces responsables d'église, prêtres, évêques, qui dans leurs églises ont prêché, fait lire de génération en génération, et ça s'étend quand même sur 2000 ans, ce qui n'est pas rien, et un peu plus pour le monde juif. Autrement dit, la Bible nous parvient toujours portée par cela, à travers donc le témoignage de croyants qui l'ont lu, qui l'ont médité, qui l'ont transmise alors qu'elle avait résonné dans leur propre vie et qui ont raconté, parce que d'abord on ne savait pas lire pendant très très longtemps, une énorme partie de la population ne savait pas lire, donc qui ont raconté, qui ont fait entendre, qui ont fait résonner, qui ont inscrit dans les œuvres d'art, dans les vitraux, dans les sculptures des cathédrales, et puis dans les grandes œuvres des artistes. Voilà, tous ces croyants qui ont porté jusqu'à nous la Bible, et qui l'ont porté, et ça je crois pour moi c'est très important, qui l'ont porté jamais tout seul. Il n'y a pas une tradition familiale, la famille d'Hendel, qui de père en fils a transmis la Bible jusqu'à aujourd'hui. Ils l'ont toujours porté collectivement. Et ça se voit dans la Bible. Quand Dieu choisit un homme, Abraham, il le choisit pour qu'en toi soient bénies toutes les nations de la terre. S'il y en a un, c'est pour tous. S'il y a un peuple ensuite qui est choisi, ce peuple il est pour que ça passe à tous les peuples. Et dans le Nouveau Testament, c'est pareil, bien sûr qu'il y a Jésus-Christ, mais il commence par quoi? Il commence par rassembler. Par rassembler 12 hommes et quelques femmes, et puis par rassembler d'autres, des foules, et quand Jésus a disparu quelques-uns, le rencontre vivant, et ceux-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent par se rassembler. Et quand ils vont annoncer la bonne nouvelle, ça consiste à quoi? Annoncer la bonne nouvelle pour, par exemple, Paul, mais pour Pierre aussi, ça consiste à rassembler quelques personnes autour de la foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire que la Bible et la foi qu'elle transmet, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, c'est toujours quelque chose qui rassemble. Or, le mot « rassemblement », dans la langue grecque, qui est la langue du Nouveau Testament, ça se dit « ecclésia », et « ecclésia », ça veut dire « église ». Alors moi, quand on me raconte « Jésus oui, l'église merci non », je dis « il y a un problème ». Il y a un problème, parce que comment je connais Jésus, moi? Je connais Jésus à cause des gens qui, en son nom, se sont rassemblés, et de génération en génération, de rassemblements successifs, qu'on a appelé les églises, tout ce que vous voulez, les communautés. Mais c'est bien des gens qui se rassemblent pour transmettre, pour vivre et pour transmettre. Convocation, rassemblement, et il n'y a pas de foi au Dieu unique, et il n'y a pas de foi au Dieu de Jésus-Christ et en Jésus-Christ lui-même, qui soit une foi solitaire, même s'il y a eu des solitaires. Mais les solitaires, ils sont toujours en lien avec des gens qui se rassemblent. Et en ce sens, vos groupes sont très importants. Voilà, la foi chrétienne, ça rassemble, et on ne peut la vivre, la développer et aussi la réfléchir, l'approfondir qu'ensemble. C'est constitutif. C'est constitutif. L'Église, ça veut dire le rassemblement, le fait que c'est collectif. Alors, ça explique aussi pourquoi la Bible, ça ne peut jamais être lu en direct, à plat, comme un roman ou comme un livre dont tout serait vrai et qui parlerait comme ça directement. Au risque d'ailleurs d'être trahi, avec ce risque majeur de la lecture de la Bible qui est quand même répandue aujourd'hui, pas tellement chez nous, il y a quand même un certain nombre de communautés qui en vivent. Je respecte leur foi, mais je ne peux pas accepter ce qu'on appelle la lecture fondamentaliste de la Bible. Prendre la Bible, je la lis tout seul et je comprends littéralement, je prends à la lettre ce qu'elle raconte. D'abord, je vais avoir un problème entre les deux récits de création, il va falloir que je choisisse. Je vais avoir un problème entre les différents visages de Dieu, je vais avoir des problèmes tout le temps. On ne peut pas lire la Bible comme ça parce qu'elle n'a pas été faite comme ça et elle n'a pas été faite pour ça. Elle a été faite par des gens qui ont commencé par méditer, réfléchir, rassembler. Je reviens sur tout ce que j'ai dit ce matin, qui interdit cette lecture littérale, linéaire de la Bible, et qui impose qu'on lise la Bible en confrontant, en entrant au fond dans le dialogue que la Bible instaure entre ses livres. Il y a vraiment un dialogue instauré sans arrêt dans la Bible par ses juxtapositions, par ses relectures. Il faut accepter d'entrer dans ce dialogue. Donc, il faut accepter aussi de prendre une distance, et d'essayer de comprendre en tenant compte des 20 ou 25 siècles de ceux qui nous l'ont transmis les uns après les autres et qui nous ont chaque fois enrichi de leurs commentaires, de leurs explications, de leur culture, etc. Donc il faut un gros travail, mais un travail qui est d'abord un travail d'échange, de confrontation et d'écoute. On pourrait citer là des auteurs. Je vous cite un autre, enfin, pas un auteur, mais un texte juif, le Talmud. Le Talmud qui dit « Celui qui lit et interprète un verset à la lettre est un blasphémateur. » Un père de l'Église, Origène, dit à peu près la même chose. Il dit que c'est, au fond, se moquer du monde, se moquer du texte, que de le lire seulement littéralement. Bienheureux ceux qui voient le feu de l'esprit divin caché sous le voile de la lettre. La Bible est un texte vivant et un texte qui est fait pour raisonner, être relu, être travaillé. Voilà, ça c'était ce que je voulais vous dire dans la distance et la tradition. Et donc moi, je me laisse prendre et je pense que je fais partie de cette grande tradition de l'Église qui a transmis la Bible de génération en génération, et je pense qu'il faut être à son écoute. Je voudrais, un dernier temps, revenir maintenant, et la tradition y amène, à la théologie, ce fameux discours de la raison qui essaye de dire Dieu. Quand on entre comme ça, dans ce regard, quand on s'inscrit dans la tradition qui a transmis la Bible, on s'aperçoit que dès le IIe siècle de notre ère, au moment même où le Nouveau Testament commence à se constituer, il y a eu une rencontre de la foi chrétienne et de ceux qui l'ont professé avec un monde très différent du monde où vivait Jésus et où vivaient les premiers disciples. C'était le monde juif, galiléen et judéen, un monde plutôt rural, une culture juive. Or, les disciples de Jésus, à la suite de Paul de Tarse et d'autres, sont allés annoncer la bonne nouvelle en monde païen, ce monde gréco-romain. D'abord, c'est un monde de ville, et puis c'est un monde très différent dans sa culture, dans sa langue. D'ailleurs, ils vont tous écrire dans cette langue qui est le grec. Et un monde très différent parce qu'il est quand même façonné, habité intellectuellement et même dans sa religiosité par qu'on a appelé la philosophie grecque, la grande tradition grecque de recherche de la sagesse et de travail de la raison. Et donc la foi chrétienne a rencontré ce monde-là, et au fond pour se développer, pour parler à ce monde-là, qui des philosophes sont devenus chrétiens, Justin est célèbre, pour parler à ce monde-là, elle a dû entrer en dialogue avec les catégories de la philosophie grecque. Entrer en dialogue avec ce logos, ce discours de la raison qui essaie de comprendre avec les capacités et les limites de la raison. Et c'est ce dialogue et cet essai pour transposer, pour dire dans d'autres catégories de la foi chrétienne, ce que, à la suite de Bernard Cesbeau, qui est un théologien contemporain, j'ai appelé c'est-à-dire, dire la Bible, c'est-à-dire, et maintenant je vais le dire avec les catégories de la philosophie grecque, vous essayez de comprendre, vous qui ne comprenez rien à la Bible. Vous voyez ce que je veux dire? Et il faut qu'on entre en dialogue. Et c'est ce qu'ont fait les premiers chrétiens, d'où, progressivement, avec les siècles, ce développement d'un certain nombre de questions autour de Jésus. Alors les Grecs ont amené, je ne vais pas rentrer là-dedans, alors c'est trop compliqué, ça ne dépasse, mais ont amené des notions de nature. Quelle est sa nature? Quel est Dieu? Y a-t-il une, deux, trois personnes en Dieu? Des notions qui ne sont pas dans le texte biblique. Il y a tout ce qu'il faut dans le texte biblique pour répondre là pour le coup, pour avancer dans ces questions. Mais on voit bien qu'on a rencontré des questions. Là, c'est la Bible, les hommes de la foi chrétienne qui rencontrent des questions qui n'étaient pas dans sa culture. Et alors, elle va devoir traduire. Et la théologie, c'est cette traduction. Et cette traduction qui a donné d'abord les premiers conciles et ce qu'on a appelé les grands dogmes de l'Église, mais cette traduction, elle est restée quand même vivante. Nous ne pouvons, même si nous le répétons dans le credo, nous ne pouvons pas nous en tenir à la traduction du 4e ou du 3e ou du 4e siècle. Notre monde a évolué, il faut que nous continuions le dire, à traduire notre foi et à traduire les données bibliques dans les catégories du monde d'aujourd'hui, et ça change très vite. Ça va? Et au fond, c'est ça le travail, dont on peut dire que c'est le travail de la théologie. Déployer cet effort, à chaque époque, de la raison humaine pour repartir des données bibliques, développer et interroger qu'est-ce que la raison peut nous aider à comprendre du Dieu auquel nous donnons notre foi. Jusqu'où peut-on le comprendre? Que peut-on en dire dans les limites du raisonnable et au-delà de ses limites? On peut passer les limites, ça devient la mystique et ça rentre aussi en compte. Ça rentre aussi en compte. Donc il y a un énorme champ là qui nous précède aussi et dans lequel vous allez petit à petit entrer de façon la plus, à mon avis, la plus fructueuse possible, c'est-à-dire en donnant votre propre contribution. Vous allez être appelé vous aussi à faire un discours à propos de votre foi pour le dire au monde, pour vous le dire à vous-même et pour le dire au monde d'aujourd'hui. Ça va ça? Et au fond, c'est ça la théologie. Vous allez faire de la théologie, c'est-à-dire que vous allez vous approprier un nombre de choses, vous les avez déjà, mais affiner, façonner la façon dont personnellement vous vous sentez capable, désireux, vous avez envie de le dire pour un monde qui est un monde qui a beaucoup beaucoup changé, qui continue à changer. Donc il faudra toujours continuer à en faire parce que ça va continuer à changer. Donc voilà, vous n'avez pas fini, si vous commencez maintenant, c'est bien, vous en avez pour toute la vie. Voilà, donc c'est sympathique. Bon, voilà, ce que je voulais au fond dire, c'est que dans ces deux années, et au-delà, il va s'établir une espèce de va-et-vient entre l'étude de la Bible, on parle souvent d'exégèse, hein, c'est une étude un peu cadrée, un peu scientifique de la Bible, le discours de la raison, la théologie, et aussi ce qu'on peut appeler d'un grand mot la philosophie, mais qui sont les attentes, les questions et les amorces de réponse du monde contemporain. Il y a une espèce de triangle, le monde, la Bible et la théologie, le grand théologien protestant de la première moitié du XXe siècle, Karl Barth, disait depuis un arbre d'image que lui faisait de la théologie avec dans une main la Bible et dans l'autre le journal du matin. La théologie, elle fait le pont entre la Bible et le journal du matin. Et donc, le monde tel qu'il se présente dans sa dernière version, on va dire. Voilà. Donc, vous allez donc entrer dans ce travail de théologie et vous voyez bien que le journal du matin, c'est aussi votre vie quotidienne. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout, on l'a déjà dit ce matin, laissé tomber. Au contraire, tout ça, ça va se nourrir, partir de et revenir à votre propre vie, votre existence, votre réflexion existentielle et spirituelle, ce qu'on appelle la spiritualité, votre prière s'il y en a une, votre façon d'être, etc. Ça devient un dialogue constant entre soi, la Bible, et puis le discours qu'on essaye de construire. Voilà. Pour finir, une petite image, un pape du VIe siècle, Grégoire le Grand, qui est un grand lecteur de la Bible, disait « La Bible grandit avec son lecteur ». C'est-à-dire, ce n'est pas seulement vous qui grandissez, c'est la Bible. Ce que vous ajoutez au fond, à tout ce que les générations précédentes ont dit, votre propre lecture. Et il y a aussi cette image qui a été beaucoup reprise, peut-être c'est Saint-Augustin qui l'avait déjà dit, peu importe. C'est que nous essayons de dire quelque chose et de comprendre quelque chose alors que nous sommes des nains, mais nous sommes assis sur les épaules des géants qui nous précèdent. Les générations précédentes. Et donc, on va voir encore plus loin. Encore plus loin. Voilà. Là aussi, question, et après, je vous lis un petit texte. Ça va? Vous résistez? Ça marche? Bon. Alors, si ça marche, avant d'aller déjeuner, je vous propose de prendre le texte qui est projeté là, mais en fait, comme ça doit plus ou moins ne pas se lire, vous l'avez accroché après votre page 1, vous avez deux pages de texte, une qu'on a utilisée tout à l'heure pour Genèse 1 et 2, et vous tournez la page. Et normalement, vous devriez avoir un texte intitulé 1 Samuel 3. Ça marche ça? Tout le monde là? Ce texte est connu, célèbre, très utilisé au catéchisme, mais vous pouvez ne pas le connaître, on en a fait des images pieuses, parfois un tout petit peu infantilisantes, avec un petit Samuel bien sage. Le jeune Samuel, c'est un jeune homme, hein, c'est pas un petit garçon. Ce texte se situe dans ce qu'on appelle le premier des livres de Samuel, suivi par les livres des rois, qui est une espèce d'immense fresque d'allure historique puisqu'elle part à peu près de l'an 1000 pour se terminer au moment de l'exil dont on reparlera cet après-midi, 587. Donc une fresque sur presque 5 siècles, 4 siècles, un peu plus de 4 siècles. Ce n'est pas un livre d'histoire parce que les gens qui l'ont écrit, je suis vraiment dit ce matin, n'avaient pas les moyens, ils n'avaient pas les documents historiques, ils ne savaient pas faire la recherche archéologique, ils n'avaient pas d'abord l'écriture n'a commencé à se mettre en route vers le 8e siècle, donc ils avaient peu de documents écrits. Donc qu'est-ce qu'ils avaient? Les légendes, les traditions, ce que les grands-pères, ce qui se racontait. Et ce qui se racontait va être mis en forme pendant ces 5 siècles avec la question, ces 5 siècles vont être l'émergence de la royauté se met en place en Israël. On va avoir un royaume uni pendant très peu de temps, 30 ans, puis il se casse en deux. Il se casse en deux, au cours d'un royaume viendra. Au bout de 200 ans, le premier disparaît, écrasé par la Syrie, et encore 200 ans après, le second disparaît, écrasé par les Babyloniens. Donc, pendant, on va dire, au maximum 4 siècles, un royaume avec un roi, David et ses descendants, c'est ce qu'on pense, et on va sans arrêt se poser la question. Mais finalement, est-ce que c'est bon d'avoir un roi? On voit bien avoir des traditions pour dire que c'est Dieu qui a choisi ce roi, que ce roi est venu de Dieu, etc. Mais il y a toute une tradition contraire, elle est présente dans la Bible, qui dit attention, attention, Dieu seul est roi. Dieu seul est roi. Et il faut faire toujours attention à ce que le roi fait, parce que le roi, ça fait toujours un jour ou l'autre, n'importe quoi. Soyons vigilants. Au tout début, avant qu'on ait des rois, on a toute une série de récits très intéressant sur, au fond, comment choisir un roi, qui choisit le roi, comment s'établir une dynastie, etc. Et dans ce récit du choix d'un roi, la dynastie qui va s'établir, alors il y a un premier roi qui va rater, d'ailleurs il meurt et son fils meurt, donc pas de descendance, c'est un roi raté, c'est Saül et son fils Jonathan. Mais il y a un roi qui va réussir, c'est David. Qui va mettre en place ces rois? Eh bien, un homme qu'on appelle Samuel, historiquement on n'a aucune, on n'a pas le nom, on n'a rien, un homme qui va être considéré comme celui que Dieu envoie pour susciter, bien qu'il n'en ait pas envie, un roi, Samuel se méfie, celui que Dieu envoie. Alors est-il un juge, est-il un prophète, Samuel est-il un prêtre, il a des tas de figures, en tout cas, il est au fond celui que Dieu envoie pour poser la question, est-ce que ça vaut la peine d'avoir un roi ou non? On finira par en avoir. Et on a d'abord l'histoire de l'enfance et de l'adolescence de Samuel, avec une très belle histoire, sa mère stérile qui vient promettre au sanctuaire de Silo que si elle a un fils, il sera voué comme serviteur au sanctuaire, elle a ce fils, et voilà Samuel qui rentre au service du sanctuaire de Silo, qui est un sanctuaire de Dieu, mais qui est l'un des multiples sanctuaires où l'idolâtrie, le paganisme environnant, les cultes de la nature sont quand même un peu présents, enfin, il faut s'en méfier. En tout cas, on a ce sanctuaire de Silo, où vit Samuel, qui va disparaître, parce que progressivement, les réformes des rois, dans les siècles qui vont suivre, vont concentrer le culte du Dieu unique à Jérusalem en se méfiant des sanctuaires environnants. Et on est donc à une époque où le sanctuaire de Silo est quand même un sanctuaire qui se détériore sur la fidélité, au moins dans le récit, sur la fidélité au Dieu. Je vous lis l'histoire. Le jeune Samuel, entre nous le petit, c'est plutôt bien, servait le Seigneur en présence d'Élie. Attention, Élie, E-L-I, c'est pas le prophète, hein. C'est un autre, c'est un prêtre. La parole du Seigneur était rare en ces jours-là. La vision n'était pas chose courante. Ce jour-là, Élie était couché à sa place habituelle. Ses yeux commençaient à faiblir, il ne pouvait plus voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple du Seigneur où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, il répondit, « Me voici, se rendit en courant auprès d'Élie et lui dit, « Me voici, puisque tu m'as appelé. » Celui-ci répondit, « Je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. Le Seigneur appela Samuel encore une fois. Samuel se leva, alla trouver Élie et lui dit, « Me voici, puisque tu m'as appelé. » Il répondit, « Je ne t'ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur. La parole du Seigneur, ne s'était pas encore révélée à lui. Le Seigneur appela encore Samuel pour la troisième fois. Il se leva, alla trouver Élie. Il lui dit, « Me voici, puisque tu m'as appelé. » Élie comprit alors que le Seigneur appelait l'enfant. Élie dit à Samuel, « Retourne te coucher. S'il t'appelle, tu lui diras, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint et se tint présent. Il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Samuel dit, « Parle, ton serviteur écoute. » Je m'arrête là, je ne lis pas la fin, vous la lirez. J'ai oublié de dire que non seulement le sanctuaire était menacé par l'idolâtrie, mais le vieux prêtre Élie, dont on vous dit ici que ses yeux commençaient à faiblir, qu'il ne pouvait plus voir, devait normalement laisser sa charge à ses fils, et que les fils étaient dévoriens. Dévoriens qui profitaient des gens qui venaient offrir des sacrifices au sanctuaire pour leur piquer la viande, alors on dit même qu'ils avaient une pique pour piquer la viande, des bons morceaux de viande dans la marmite du sacrifice. C'est écrit, bon, ces gens-là ne valaient rien, et Élie le savait sans désespérer, ne pouvait ou ne voulait rien faire. On est donc, et le début du texte vous le montre, c'est quand même très fortement symbolique, on est donc dans une atmosphère de fin de règne. La parole du Seigneur était rare en ces jours-là. Je vous dis, des fois le Seigneur se cache, il ne parle pas, la parole était rare. La vision n'était pas chose courante. Il y était couché à sa place habituelle, ses yeux commençaient à faiblir, il ne pouvait plus voir, et on vous dit quand même, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Mais quand on vous dit que ce n'est pas éteint, c'est quand même que c'est en train de faiblir. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment une atmosphère où la vision baisse, où on n'entend plus rien. Voilà. Samuel était couché. Et à ce moment-là, le Seigneur parle, appelle Samuel dans la nuit. Au point que Samuel, qui n'entend là rien d'anormal, le Seigneur ne s'est pas manifesté par une parole tonitruante ou extraordinaire, considère que c'est le prêtre qui l'a appelé et va une fois, deux fois, trois fois, un serviteur obéissant et fidèle, se réveille et va voir Élie en disant, mais qu'est-ce que tu me veux? Je suis à ton service. Donc Samuel n'est pas, au fond, terrassé par la parole de Dieu, par une vision, il entend parler et c'est la voix, pour lui, c'est la voix d'Élie. À ce moment-là, il y a quand même quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que c'est Élie, le vieux prêtre, qui n'y voit plus rien, qui est en fin de règne, qui va mourir, dont le sanctuaire est en train de se délabrer, surtout sur le fond des choses, en train d'être gagné par le paganisme, dont les fils sont des vauriens qui trahissent le Seigneur, qui maltraitent ses fidèles. C'est le vieil Élie qui dit quand même à Samuel, Élie compris que le Seigneur appelait l'enfant, et qui dit à Samuel, retourne te coucher. S'il t'appelle, tu lui diras, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Moi, je m'arrête là-dessus, parce que je trouve que c'est très intéressant. À partir de là, un dialogue s'engage entre le Seigneur qui appelle Samuel et Samuel, et le Seigneur va d'ailleurs envoyer Samuel dira à Élie que pour lui, c'est fini. Si vous lisez la suite, je réaliserai contre Élie tout ce que j'ai dit au sujet de sa maison. Je fais justice de sa maison pour toujours à cause de sa faute. Il savait que ses fils insultaient Dieu et néanmoins il ne les a pas repris. Je le jure à la maison d'Élie, rien n'effacera jamais la faute de la maison d'Élie, ni sacrifice, ni offrande. Donc terminé, il lui envoie dire des choses très désagréables à Élie. C'est fini pour toi, pour aujourd'hui et pour ta famille. Et puis Dieu va lancer Samuel comme son intermédiaire, peut-être pas un prophète, mais son intermédiaire auprès du peuple. Donc c'est cet Élie qui est en fin de course, que Dieu va au fond mettre sur la touche, qui a permis au jeune Samuel, qui au fond, le futur envoyé de Dieu, de reconnaître la voix du Seigneur. Moi, je trouve que ça donne à méditer. Ça donne à méditer. Voilà, Dieu ne parle pas de façon extraordinaire. Peut-être ça vous est arrivé, mais n'attendez quand même pas d'avoir une révélation au milieu de l'homme, quelqu'un se pose une question, ou par l'appel d'une autre personne. Et au fond, ici, c'est Élie, le représentant d'une institution délabrée et en voie d'disparition, qui éclaire Samuel et le réoriente vers ce Dieu qui l'appelle. Et moi, je trouve que par rapport à effectivement tout le mal qu'on peut dire et qu'on peut penser, la période des institutions diverses et variées, et de la Sainte Église que j'aime, même si elle est imparfaite, mais je le suis encore plus qu'elle, alors bon, on fait quand même bon ménage. C'est quand même très fort ce texte qui nous dit. Mais voilà, c'est quand même eux qui ont transmis. C'est eux qui peuvent vous dire, ah, attention, le Seigneur va. Voilà. Je m'arrête là et j'écoute vos questions. Avant de vous envoyer le déjeuner. Ah oui, les livres. Alors, j'écoute les questions et après je vous présente la bibliothèque. La librairie. Ils sont là, je vais vous dire. Question. Non, plus rien. Vous êtes mort. Bon, mais vous prenez force, hein, pour mes deux heures. On continue. Avant de vous laisser, vous avez vu déjà, au fond de la salle, qu'il y a une librairie. Jean-Denis est arrivé, il va vous vendre les livres que vous voulez. Et vous avez, dans votre dossier, je crois que c'est le troisième document. Vous voyez ça ? Lire et travailler les textes bibliques, ça marche ? Vous avez dans votre dossier une petite bibliographie. Alors, il faudra la garder pour janvier parce que le dos, c'est la bibliographie pour le Nouveau Testament. Aujourd'hui, on va se contenter de l'Ancien Testament. Vous devez travailler avec une Bible. Alors, deux choses. Vous avez chez vous, vous n'avez pas une Bible de travail, mais c'est quand même bien d'avoir une Bible avec des notes, donc une assez grosse Bible. Je vous en propose deux ou trois. La traduction œcuménique de la Bible, moi je l'aime beaucoup, elles ont toutes des défauts, hein, mais je l'aime beaucoup parce qu'elle représente un accord entre les principales confessions chrétiennes, catholiques, protestants de tous bords et orthodoxes. On s'est entendu sur la traduction et sur les notes. On est même en train de lancer pour dans 10 ans, donc vous reviendrez dans 10 ans, une nouvelle traduction annotée de la Tov où on va faire entendre une voix juive. C'est-à-dire on interroge aussi, pas eux qui traduiront, mais on interroge aussi, on mettra dans les notes la compréhension juive des choses. Voilà. Donc la Tov, c'est un bel ouvrage de travail. Mais vous pouvez aussi utiliser, si vous l'avez chez vous, la Bible de Jérusalem, qui est, au point de vue de la traduction, plus agréable, moins rugueuse. Ça, c'est mieux. Puis, il y a aussi beaucoup de notes. Une très bonne Bible. La nouvelle Bible de Second, NBS, je ne sais pas si vous l'avez. Non, il n'y a même pas, mais c'est quand même une belle Bible, avec des notes, avec surtout beaucoup de glossaires à la fin, vocabulaire, annexes, cartes, qui sont très intéressantes. Bon, il y a encore aussi une très belle traduction, très précise d'Hostie Trinquet, mais ça n'existe quasiment plus. Si, vous l'avez. Bon. Alors, ça, c'est les grosses Bibles. Mais quand vous venez au cours du CIF, ou vous venez de loin et vous prenez le métro, le RER, le machin, le truc, ou vous venez de près et malgré tout vous marchez à pied, vous n'allez pas traîner 2,5 kg de Bibles avec vous. Donc, c'est bien d'avoir une petite Bible pour le cours. Et donc, il y a des Bibles. Divers formats. Voilà, ça c'est laquelle. La tobe, ça La tobe, ouais, avec juste quelques notes. La Bible de Jérusalem, grand format, et la Bible de Jérusalem, tout petit format en papier Bible, à la seule condition que vos yeux ne soient pas trop fatigués. Voilà.
Je prends juste une chose pour les Bibles. On commande et on les
amène. Alors, les Bibles, vous les consultez là. Vous commandez votre Bible et vous la retrouverez au secrétariat mardi. Ah non, c'est lundi là pour avoir. Le lundi d'après. D'accord. Voilà. Ensuite, vous avez une bibliographie avec des introductions à la Bible. Alors, il y en a toujours plus, évidemment. Je dirais que les introductions les plus simples, la plus simple et la plus claire, c'est la petite initiation biblique de Régis Durmont, qui est très bien. Elle est là. Vous avez plus thématique, claire et facile à lire aussi, mais probablement un peu plus dense. Et c'est plus thématique, vous avez des grandes notions, la loi, l'alliance, l'histoire. L'introduction nombreuses années, ils ont enfin changé, mais leur fera trouver le successeur. C'est trop formidable. Alors, ensuite, vous avez des choses plus costaudes, de divers niveaux. Si vous aimez l'histoire, si vous vous posez des questions sur la casquette historique là-dedans, la sortie d'Égypte, la chute de Jérusalem, les patriarches, alors, pour vous, le livre très clair et très passionnant du point de vue d'histoire de Jean Huisca, Les énigmes du passé. Ça va de l'an moins 1000 l'Égypte, de l'Égypte ancienne, jusque vers 587, la fin des temps royaux. Mais c'est à base d'archéologie, de textes, mais c'est écrit de façon très très claire et lisible, et c'est vraiment intéressant. Ça, c'est plus juste. Ensuite, Thomas Romer, un livre d'entretien, c'est toujours plus facile des livres d'entretien. La Bible, quelles histoires ? Quelqu'un qui a énormément travaillé sur les traditions bibliques, la diversité des traditions, la diversité des noms de Dieu, et qui a un dialogue avec Estelle Villeneuve pour raconter tout ça. Ça se lit comme un roman. Et puis deux choses. Se poser des questions sur qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que la Bible dit vrai, vous disiez tout à l'heure, toute la vérité. François Brossier, qui est un bibliste et qui était curé de Vendôme pendant toute sa vie et qui vient de mourir brutalement à 78 ans, a écrit ce livre il y a assez longtemps et puis il avait repris, il en préparait une nouvelle édition, mais il est mort trop tôt. La Bible dit-elle vrai, où il prend un certain nombre d'exemples, anciens et nouveaux testaments, pour dire oui, la Bible dit vrai, mais il faut s'entendre sur le mot vrai. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Et quand on a toute la vérité, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on est passé à côté. Enfin, pour ceux qui sont vraiment, qui aiment l'histoire et qui veulent travailler de façon historienne sur la Bible, et donc c'est un livre beaucoup plus dense, beaucoup plus avec une base scientifique forte. Le livre de Mario Liverani, qui a un titre intéressant, La Bible et l'invention de l'histoire. L'invention au sens qu'on invente, on imagine, mais aussi on découvre ce qui est déjà là. Le mot latin, invention, ça veut dire la découverte de ce qui est déjà là. Donc c'est un peu le processus dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà. Vous pouvez donc aller à la librairie, ensuite déjeuner, ensuite qu'est-ce qu'on se donne comme horaire? Bérangère, on reprend à 1h30, ça vous va, vous êtes retour? Vous avez votre tour à vivre? 1h30, et c'est combien on finit à 4h30?
Encore un jour. Je pars à 13h.
Alors, le libraire part à 13h. Mais les livres, c'est maintenant.
C'est les miens, c'est pas les vôtres. Hein.
Ah, c'est tout à vous.
C'est tout à vous.
Je vous en ai compliqué un.